Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
No flash, no scoop. C'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatasse.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Bonjour à tous. Les amis, les crieurs de bonnes nouvelles. Philippe n'est pas réveillé ce matin.
J'étais en train de lire la suite. Bon, alors, allons-y. Oye, oye, les cueilleurs de bonnes nouvelles, bienvenue sur CBN, 7 bonnes nouvelles, sur 107, on Radio Bartas, avec Virginie, bonjour Virginie,
bonjour
et moi-même Philippe, bonjour Philippe, et Christophe, bonjour Christophe.
Bonjour à vous deux.
Voilà, alors, des mails cette semaine.
Quelques messages effectivement, ce mois-ci même, c'est deux mois, on s'excuse, on a fait une petite pause printanière. De notre côté, donc, un premier message. Connaissez-vous l'université du Nous ? Le site internet, c'est université-du-nous.org. C'est sur Expedia. C'est une encyclopédie alternative écrite coopérativement, dont l'objectif est de proposer des connaissances pratiques, des éléments nouveaux, d'économie et des techniques et technologies appropriées. Il y a aussi Résiway. Résiway, c'est un site qui rassemble des petites actions éco-responsables qui se développent partout dans le monde et qui pourraient mener à un bel avenir pour l'humain. Résiway a pour but de faciliter le soutien mutuel et de permettre à chacun de rassembler des informations issues de cette accumulation d'expériences.
Coucou CBN. Alors, trois bonnes nouvelles pour vous. C'est vendredi. Je ne fume plus depuis 5 jours et j'ai vu des primes vertes ce matin. Ça sent le printemps et c'est bon. Bravo pour votre émission qui donne la pêche. Des bisous à vous et aux auditeurs. Et c'est signé Nathalie. Alors bravo Nathalie, hein, depuis 5 jours. Bon, maintenant ça fait un peu plus, mais voilà. Bravo.
Chères toutes et tous, je vous envoie ci-joint le dépliant de l'association Objectif laine, avec des stages du printemps et été. De la tonte et tri de la laine, village, feutrage, ceinture végétale. Ces stages se déroulent dans ou proche de Genolac. Ça pourrait vous intéresser ou peut-être vos hôtes ou vos amis. Pour des inscriptions, questions, écrire à objectiflaine@gmail.com, le téléphone 06 81 45 74 60. À bientôt, signé Eva. Alors,
Oui, au cas où vous l'auriez perdu, parce que le répondeur est muet ce mois-ci. Voilà. Bon, on vous redonne son numéro 04 66 47 06 92. Et puis notre boîte mail cbn@radiobartas.net.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Alors, on part sur CBN tout azimut. Philippe, ce mois-ci, qu'est-ce que tu nous accueillis comme bonne nouvelle ?
Oui, alors, quelques bonnes nouvelles. Alors, je commencerai d'abord par une bonne nouvelle technologique. Et oui, il y en a. Alors, le chargeur USB à eau débarque. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Parce qu'on a tous des smartphones, certains des tablettes, d'autres des chargeurs MP3, MP4 et tout ça. Donc tous ces petits trucs, c'est super, mais il faut penser à les recharger. Et bon, on se dit, une petite recharge de notre smartphone tous les jours ou tous les deux jours, c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui va détraquer la planète, mais il faut imaginer qu'on est des millions à faire la même chose. Donc ben voilà, ça fait quand même beaucoup d'énergie. Alors... voilà, il y en a qui ont imaginé une solution de recharge qui permettrait de conserver ses habitudes de consommation et de loisirs sans pour autant en faire pâtir la planète. Alors, c'est une société qui est basée à Stockholm qui vient de finir de mettre au point la solution idéale pour ça. Le nom de son invention, c'est PowerTrek TM. Bon, voilà.
Yeah.
Ouais. Alors, certes, ouais. Enfin, c'est sûr, le nom, c'est un peu bizarre. Mais... cet appareil, il va vous permettre de recharger vos appareils portables simplement grâce à de l'eau. Et oui, pourtant l'eau c'est quand même l'ennemi du téléphone ou de la tablette, parce que quand on met un téléphone dans l'eau, ben, ça ne marche pas. Et ben voilà, à l'intérieur du petit engin, on retrouve une batterie d'un côté, donc ça c'est ce qui va servir à stocker l'énergie, et un générateur d'électricité, alors c'est là où ça se complique, qui est équipé d'une membrane spéciale de moins de 3 mm d'épaisseur, qui se charge de produire l'électricité. En fait, il suffit d'immerger cette membrane dans l'eau, alors il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, ils mettent à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, et pour qu'il y ait une réaction chimique qui se passe donc à base d'hydrogène et tout ça, et ça, ça produit l'électricité qui est stockée dans la batterie. Et voilà.
Et le tour est joué.
Ben, le tour est joué, ben, c'est quand même super. Hein. Ouais. Ça, ils l'annoncent pour, bon, c'est quand même un petit budget, donc pour moins de 200 euros, voilà. L'autre avantage de cet appareil, c'est que, bon, il existe des chargeurs solaires pour les téléphones et tout ça, hein, quand on part en balade ou même chez soi. Mais là, l'avantage de cet objet, c'est que c'est instantané. Il suffit qu'on le trempe dans l'eau, alors je ne sais pas combien de temps, hein, mais c'est assez rapide apparemment. Et aussitôt, la batterie est chargée et on peut s'en servir pour recharger son portable. Donc voilà, ben, vous trouverez toutes les infos sur le site powertrek.com.
Alors moi, j'ai une bonne nouvelle scatologique. Alors non, ne riez pas, c'est bien vrai. À Stockholm, plus d'un tiers des bus roulent au biogaz qui est produit grâce aux déjections humaines. Ça peut sembler un petit peu incongru, la valorisation énergétique des eaux usées de la capitale est pourtant bien rodée et donne un biogaz de grande qualité qui permet aux bus de fonctionner à partir d'une source d'énergie renouvelable. Alors la Suède, hein, elle est très régulièrement citée en exemple pour son engagement écologique et ses efforts consacrés à sa réduction de son empreinte sur l'environnement. Avec la valorisation des eaux usées, le pays passe un nouveau cap, car en plus de faire rouler les bus sans énergie fossile, elle emploie en fait les boues d'épuration, qui sont souvent problématiques pour leur stockage. Le procédé est assez simple, dans la théorie. Les eaux usées d'un million de Suédois arrivent dans la station d'épuration. Là, elles reçoivent un traitement traditionnel, alors des grillages, décantations, traitements bactériologiques et chimiques, puis rejet des eaux propres dans la nature. Ben ça fonctionne ainsi dans bien d'autres pays, mais comme en France par exemple. Mais la différence essentielle, c'est que dans un processus traditionnel, les boues d'épuration qui résultent du filtrage et de la décantation sont écartées. En Suède, par contre, ces boues sont utilisées dans un circuit parallèle. Elles sont mises à fermenter, ce qui libère du méthane, et c'est là que naît notre fameux biogaz qui est récolté pour alimenter les bus de la ville. Alors aujourd'hui, c'est 36% des bus de Stockholm qui circulent grâce à ce biogaz produit par les excréments humains et les graisses rejetées par les restaurants. Alors c'est pourquoi pas à tester aussi dans d'autres villes, car cette matière première, je vous le rappelle, elle est gratuite.
Alors, une bonne nouvelle pour notre morale et puis j'espère un peu aussi pour la planète, évidemment. Cette bonne nouvelle, elle s'appelle « La Terre vue du cœur ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la Terre vue du cœur ? Eh bien, c'est tout simplement le nom du dernier documentaire, donc le nom d'un documentaire, en fait, qui est sorti alors, au Québec le 13 avril. Et il est co-réalisé par Hubert Reeve. Bon, tout le monde connaît Hubert Reeve, hein, auteur, astrophysicien. Mais alors là, ça commence mal, vous allez vous dire... Encore un truc qui va nous mettre le moral à zéro, parce qu'en fait, il tire un peu la sonnette d'alarme face à l'état actuel de notre planète et surtout à ce qu'il appelle la sixième extinction de masse. Eh bien, en fait, pas du tout. Malgré ça, Hubert Reeve et les gens qui sont dans le film, eh bien, ils se veulent optimistes. Car pour lui, il n'est pas trop tard, l'espoir subsiste, mais... Tout de même, il y a urgence. Voilà, donc il y a une douzaine de personnalités d'horizons divers hein, qui ont accepté de se présenter devant la caméra. La réalisatrice, c'est une Canadienne, Yolande Cadrin-Rossignol. Et bon, ils ont tous comme point commun d'être engagés et militants dans la sauvegarde de l'environnement, de la biodiversité, des espèces et des écosystèmes. Il y a un océanographe. Un philosophe, un conservateur de musées naturels, enfin voilà, bref. Alors, comment faire ? Ils font tous le même constat, hein, mais comment délivrer un message positif ? Alors que contrairement aux 5 extinctions précédentes, celle-ci, elle a la particularité d'être uniquement de notre faute. Bon, voilà. Alors,
c'est vrai que c'est gay pour l'instant.
Ben oui, je vais essayer de m'améliorer. Alors, ben, je cite Hubert Reeves parce que voilà, note d'espoir quand même. Hein. Beaucoup de personnes considèrent qu'en fait, on est déjà en plein dans cette sixième extinction. Mais il n'est jamais trop tard. C'est trop tard quand on dit que c'est trop tard. Bon, voilà, je continue à le citer. Maintenant, depuis quelques années, il y a des avancées dans la restauration de la situation. Donc là, ça devient quand même positif. Il y a des éléments positifs un peu partout. Il y a des enthousiasmes qui se réveillent. On le voit alors chez les gens, globalement, hein, dans les mairies, dans les compagnies, sur Radio Bartas. Voilà. Partout, on sent qu'il y a une prise de conscience de l'extrême importance de cette situation. Et alors, ben voilà, je continue à le citer toujours. Hein, et c'est un petit peu le but de ce film, c'est que les gens sachent ce qui se passe, sachent pour être en mesure ensuite d'agir. Voilà, c'est une question d'attitude. Pour l'instant, d'après lui, il y a encore un avenir. Et l'important, c'est que chacun soit dynamique, soit positif, soit combattant, comme il importe de combattre quand on sent qu'une situation est très tendue et que ça pourrait aller beaucoup mieux. Voilà, c'est un message d'espoir. Et attendons la sortie en France de La Terre vue du cœur.
Alors un autre message d'espoir et une bonne nouvelle pour Maya et ses copines. En janvier 2018, sous l'impulsion de Polinis et grâce au soutien de, notamment d'une députée européenne qui s'appelle Maria Lydia Serra Rodriguez, 11 amendements évoquent pour la première fois la protection des abeilles, locales européennes. Deux mois plus tard, l'ensemble des amendements demandant la protection juridique de l'abeille locale et la fin des néonicotinoïdes. Alors ça, je vais y arriver. Hein. Oui. Tueur d'abeilles en Europe.
L'abeille locale aussi, ah oui. c'est facile
mignon,
à dire.
C'est mignon, l'abeille locale.
L'abeille locale.
On va arrêter de le dire. Oui. Donc la fin des pesticides, hein, tueur d'abeilles locales, a été votée par le Parlement européen. Enfin, le Parlement européen se décide à préconiser non plus seulement des mesures au coup par coup, mais un véritable plan d'ensemble pour tenter d'enrayer le déclin de l'apiculture européenne. Alors on reste pour l'instant au stade des bonnes intentions, mais les résolutions votées par le Parlement ont le mérite de faire prendre conscience de l'ampleur du problème. Et donc voici quelques exemples des résolutions. Un plan d'action au niveau de l'Europe pour lutter contre la mortalité, des programmes d'amélioration de la résilience aux espèces envahissantes, tels que le frelon dont on a souvent parlé malheureusement. Après j'ai perdu ma feuille. Davantage de recherches pour développer des médicaments innovants pour les abeilles. Interdiction de tout produit phytosanitaire dont je parlais juste avant, un avertissement avancé des périodes de pulvérisation des cultures pour éviter de nuire aux abeilles. Alors c'est une victoire exceptionnelle pour l'abeille noire. L'abeille locale, c'est l'abeille noire, notamment, il y en a pas mal en Cévennes. Parce que les apiculteurs qui prennent soin d'elle et nous alertaient depuis très longtemps, les scientifiques aussi. Alors cette victoire, c'est intéressant parce que c'est vraiment dû au travail notamment de ce réseau, de cette équipe-là de Polinis, qui n'ont pas lâché leur téléphone toute la semaine avant le vote. Ils ont appelé les 751 députés, un par un, pour les motiver, pour leur expliquer les enjeux. Enfin, c'est vraiment un travail de fourmi, pour le coup.
De fond et de fourmi, c'est
incroyable. Oui. C'est aussi cette victoire a été possible grâce à la Fédération européenne des conservatoires de l'abeille noire et à tous les scientifiques et les associations qui se démènent depuis des années. Ils ont eux-mêmes harcelé les membres du Parlement européen avant le vote. Mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui.
Donc c'est vraiment, ça rebondit pas mal sur ton message d'avant, que de dire que s'il faut se battre, il faut combattre, il faut y croire et que c'est possible. Et que là, il y a vraiment une petite révolution qui est en marche.
Alors, une bonne nouvelle sur la... Voilà, toujours un peu, aujourd'hui, voilà, sobriété technologique. Voilà, bon, je suis désolé, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Low-Tech Lab. Alors, c'est quoi le Low-Tech Lab? Eh bien, c'est une équipe, en fait, qui, à force de faire des expéditions un peu au bout du monde ou des tours de France, en fait, sont des passionnés qui ont décidé de partager leurs trouvailles grâce à un site internet qui s'appelle Low-Tech Lab. Alors, je donnerai l'adresse après. Alors, le Low-Tech Lab, c'est quoi? Eh bien, ce site, il permet à tous, en fait, de consulter et d'enrichir des tutoriels, mais aussi de partager des inventions accessibles, durables et économes en termes de ressources et d'énergie. Ce sont les low technologies. En résumé, être plus performant avec le moins possible. Alors, ce sont des systèmes techniques... Alors, qui répondent à des besoins élémentaires, hein, pour se chauffer, pour tout ça, faire des panneaux solaires, etc. Mais la particularité, c'est qu'ils ont un très faible impact sur l'environnement, car en fait, ils sont basés sur des matériaux de récupération et aussi, ils fonctionnent avec très peu d'énergie. Alors, sur le site internet, là, Low-Tech Lab, il y a différentes catégories, alimentation, eau, énergie, habitat, hygiène, matériaux, outils, santé. Il est assez bien fait, le site. Hein. Dans chaque rubrique, on trouve des solutions, par exemple, pour faire un poêle de masse semi-démontable, qu'avec des matériaux de récupération. À chaque fois... Il y a tout le mode d'emploi pour fabriquer par exemple ce poêle de masse. Il y a combien ça coûte. Donc, et en général, c'est des toutes petites sommes. Il y a aussi, par exemple, une éolienne qui est construite à partir de moteurs d'imprimantes. Bon, voilà, bon recyclage des imprimantes. Des méthodes de pasteurisation, de fermentation. Il y a même des fois, ça coûte rien, en fait. C'est juste qu'il fallait y penser. Alors, ça fait un an et demi que ça existe. L'idée, c'est que c'est collaboratif. Donc c'est un peu comme Wikipédia, hein. Tout le monde peut poser des tutoriels, des bidouilles, des trucs, fabriquer ceci ou cela avec des matériaux de récupération et faire un petit tutoriel, voilà. Alors évidemment il y a quand même des gens qui vérifient que tout ça soit facile à faire, que ça corresponde bien à des critères techniques, hein, et puis soit compréhensible pour tout le monde. C'est le low-tech en fait, c'est de la technique, mais c'est aussi un peu une philosophie de vie, hein, comme vous le voyez. C'est basé sur des principes dont on parle beaucoup à CBN. Ça va un peu en sens inverse de la recherche et développement qui est classique, qui est toujours centrée autour de procédés high-tech avec toujours plus complexes des trucs qui demandent aussi de plus en plus d'énergie. C'est aussi du recyclage et du recyclage de matériaux, de matériel, de matière. Et donc, Corentin, des membres de l'équipe du site, là, part à bord d'un catamaran qui va s'appeler le Nomade des Mers et il va essayer de mettre en pratique toutes ces solutions vues ou imaginées par d'autres. Et donc ça va faire l'objet d'une série télévisée sur Arte. Voilà. Il y a aussi alors un autre projet de Low-Tech Lab en France, ça sera en France, hein, un camion réaménagé en atelier itinérant est parti à la rencontre de 12 inventeurs ou initiatives locales incluant des low technologies. Et à chaque fois, tout ça c'est publié sur le site. Alors l'adresse c'est lowtechlab.org. Donc allez voir, vous verrez, il y a plein de choses utiles et très faciles à faire.
Alors, je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Sheila Chikrank. Pendant que ses voisines s'installent autour d'elle, Sheila, à l'ombre d'une petite maison, drapée d'un sari orange, alors là on situe tout de suite la scène en Inde, elle remplit des bols de céréales et des légumes secs, du riz, du blé, du maïs, des petits pois. À son sourire, on devine qu'il s'agit du fruit de son travail. Mais c'est aussi celui d'une petite révolution. Nous sommes au Mashala, un village de 800 familles à 500 km à l'est de la capitale Bombay. La région elle est en proie à des vagues de chaleur extrêmes. Elle est devenue vraiment l'épicentre d'une grave crise agricole. Alors moi aussi, je commence mal hein, dans mon histoire. Il y a une grave ouais. crise en Inde avec des milliers de paysans en fait, qui sont endettés, qui n'ont plus de quoi s'alimenter et qui donc se suicident au cours des deux dernières années. Ça a été catastrophique.
Ah, c'est gay aussi. Hein,
c'est très gay.
Ce matin.
Hein. Allez, bon printemps.
Bon printemps.
Mais bon, ça va s'arranger, ouais, vous allez voir. Depuis 10 ans, en fait, les cultures alimentaires ont progressivement été abandonnées au profit des cultures commerciales, type la fameuse canne à sucre. Alors, c'est une plante qui est certes plus rentable, mais qui requiert énormément d'eau. Et Madame Chikrank, elle raconte, ils avaient 5 hectares de terrain, ils ne produisaient que ça. Alors, quand ils ont manqué d'eau, ils ont tout perdu. On n'avait plus d'argent pour se nourrir. Alors, elle a eu une idée. Elle a demandé à son mari de lui laisser 1 hectare. 1 hectare sur les 5 pour y cultiver une vingtaine de plantes plus économiques en eau. Elle voulait avoir de quoi nourrir sa famille, elle explique. Si la canne à sucre échouait à nouveau, elle souhaitait, elle, revenir à des pratiques plus traditionnelles. Elle utilisait des engrais naturels. Alors au début, son mari, il a été sceptique, mais il a fini par donner son accord. Et un an plus tard, quand il a vu les résultats, il lui a laissé gérer la moitié de son terrain. Les récoltes ont vite dépassé ses espérances. Elles lui ont permis, certes, c'était essentiel de nourrir sa famille, mais aussi de vendre le surplus à la ville et de doubler son revenu annuel du foyer. Depuis, cette femme, qui a 38 ans, n'a cessé de diversifier son activité. Elle a acheté du bétail, qui lui a fourni de l'engrais. Elle a vendu ses semences biologiques à Bombay. Dernière étape franchie, l'enregistrement de sa propre entreprise agricole. Et le tout en son nom. Alors c'est là aussi que c'est une révolution, parce qu'en Inde traditionnelle, les femmes, ce n'est pas elles qui possèdent les terrains, ce n'est pas elles qui ont le droit de cultiver, etc. Et bien sûr, ce qu'elle a entrepris a fait des émules, et c'est petit à petit, elle a donné des conseils à ses voisines, qui elles aussi ont réussi à convaincre leur mari de leur donner un bout de terrain pour cultiver de quoi se nourrir. Et maintenant qu'elle gagne plus que les 10 maris, on les regarde un petit peu différemment. Alors, au sein des 2,3 millions de familles rurales qui vivent dans cette région, il y a 40 000 femmes qui ont ainsi pris le contrôle d'au moins un hectare de terrain pour y développer une culture fondamentale, la culture vivrière. Alors, elles ont été formées par des ONG ou des services gouvernementaux, mais c'est surtout le mouvement, il se propage surtout grâce au soutien des femmes de la communauté féminine entre elles, qui s'apprend des choses, qui s'échangent. Alors, même si c'est un petit peu comme ce que tu disais avant, c'est aussi de la coopération qui se met en place. Grâce à l'argent qu'elles gagnent, elles ont même créé des fonds qui leur permettent d'investir dans de nouveaux projets sans devoir leur demander l'autorisation du mari, de la belle-famille, etc. Et le fait d'avoir une mise de base leur permettent d'aller négocier avec les banques pour obtenir des emprunts un petit peu plus conséquents et du coup ainsi de rentrer dans une spirale plus vertueuse. Voilà donc une belle histoire qui finit bien. Alors voici, on a fini avec nos bonnes nouvelles. Oui. Et donc ce mois-ci, pour faire une petite pause de musique, nous allons faire un hommage au grand Mr. Jack Higelin avec La Rousse au chocolat.
Détente de la gare de Nantes, j'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être au chaud. Dans les bras de cette fille de Saint-Malo qui serrait son matelot sur le quai. Fin de tuerne, j'ouvre un magazine et je vois une jolie petite rousse qui se tape une mousse au chocolat. Ses lèvres gourmandes m'invite à en prendre avec elle. Rien qu'une cuillère avant que sa grand-mère ne revienne. Yeah.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bartas sur le 107 pour faire le plein de bonnes nouvelles. Et donc, ce mois-ci, eh bien, notre invité local, eh ben, c'est la radio. Voilà, tout simplement. Je vous explique pourquoi. Je crois que Christophe, donc, un des piliers de cette radio, a vraiment une très bonne nouvelle à nous annoncer pour le budget de Radio Bartas.
Oui, oyez, oyez, brave Jean, je reprends votre formule.
Oui, oui.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on avait fait Véro, là, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a des vacances bien méritées.
Ouais, vous connaissez sa voix, Véro.
Oui, voilà. Vous pouvez l'entendre pendant les annonces, oui. Ou lorsque vous téléphonez à Radio Bartas.
Vous tombez sur Véro.
Voilà, vous tombez sur Véro.
La plupart du temps.
La plupart du temps, tout à fait.
Oui.
Et donc, Véro, elle s'occupe de tout ce qui est administratif. Et donc, elle nous a fait un budget prévisionnel qu'elle nous a exposé lors de l'Assemblée Générale. Et oui. Selon la formule consacrée, ça a fait gloops.
Oui.
Voilà, parce qu'on avait tablé à peu près... Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le fonds de soutien radiophonique, qui est un petit peu la subvention névralgique...
Oui, le fonds d'État, en fait.
Voilà.
Oui.
Qui nous permet de vivre toute une période d'un an, quoi. Et là, les prévisions oui. étaient très, très pessimistes. On s'attendait à toucher 10 000 euros et puis y a une petite lettre qui est arrivée qui nous annonçait qu'au lieu de 10 000 euros, c'était 22 000 euros. Ouf.
Voilà, oui. Alors oui, pour rappel pour les auditeurs, parce qu'il faut quand même dire que Radio Bartas, c'est une radio non publicitaire. Hein, oui. Donc il y a des salariés, des gens qui font vivre cette radio, en plus du conseil d'administration qui, lui, est bénévole. Donc, ces gens, il faut bien les payer, il y a du matériel à entretenir et tout ça. Et la seule ressource de la radio, c'est les subventions, dont cette subvention de... j'ai oublié le nom de la...
Le fonds de soutien radiophonique.
Voilà. Qui est donc géré, ça c'est des crédits d'État en fait. Hein.
Oui, voilà. Oui. Mais ouais. Avant c'était indexé aussi sur à l'époque de Sarkozy, donc
oui.
c'est vieux.
C'est vieux déjà, oui.
Ça commence à être très vieux. C'est-à-dire que Sarkozy, lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, on trouvait ça tous bien. C'est qu'à partir de 20h, il n'y avait plus de pub sur les chaînes publiques.
Oui, oui, oui. Et c'est lui qui a pris cette mesure. Voilà,
j'avais oublié ça.
Et oui. On a trouvé ça très très bien. Mais oui. ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces publicités, il y avait un pourcentage qui s'en allait pour toutes les radios libres.
D'accord.
Et ça nous a fait des grosses coupes pour les radios comme Radio Bartas, voilà, les radios classées A comme associatives, non commerciales.
Oui. Voilà.
Patali, patala.
Alors, cette subvention, qui est quand même la subvention la plus importante, il y a une part fixe, donc ça, bon, voilà, c'est, mm-hmm. bon, ça tombe, on va dire, et il y a une part variable, celle dont tu parlais tout à l'heure.
Oui.
Donc, on s'attendait, elle avait provisionné, comme on dit en comptabilité, 10 000 euros, c'était prudent. Et pourquoi alors on a eu 22 000 euros?
Alors, on ne sait pas trop.
Ouais. Enfin, quand même un peu.
Oui, voilà, on a des pistes.
Oui.
Mais donc, chaque année, ils ont des thématiques qui vont passer devant certaines autres thématiques. Donc, ça va pouvoir être l'écologie, la réinsertion, le handicap, la mobilité, quoi. Et... on aurait, pour l'année 2016, parce que là, ce qu'on a touché cette année, c'est par rapport à l'exercice qu'on a fait en 2016.
Donc, à l'année pas... Oui,
il y a deux ans.
Il y a même un décalage de deux ans, en fait.
C'est
comme
la caisse d'allocation familiale. Ça se...
il y a un décalage de deux ans.
C'est pas très réactif, mais bon. Et donc, apparemment, on a été dans les thématiques de cette année-là. Du coup, on a été très, très bien noté. Et c'est pour ça...
Voilà, que cette année, donc deux ans plus tard...
on a cette bonne surprise.
Voilà. Ouf. Voilà. Ouf, heureusement, oui, parce que y a quand même du matériel à entretenir, comme je disais. Enfin, il y a plein de choses, il y a des frais, et donc cela ne sera pas de trop.
Enfin, si je peux ajouter quelque chose, pour le coup, ça va être moins bonne nouvelle, mais c'est qu'avec l'abandon des contrats aidés et des contrats d'avenir, nous, si on avait vraiment si on avait vraiment touché ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire les 10 000 euros, en une année, on aurait perdu pratiquement un plein temps.
Oui,
voilà.
D'accord.
Et il y a énormément d'associations qui se retrouvent dans ce cas-là. Moi, je pense à une association directement, c'est la bibliothèque de Florac, où Eva, avant, elle était entourée de gens qui étaient en contrat aidé ou contrat d'avenir. Et aujourd'hui, elle se retrouve absolument toute seule. Pour la même masse de travail. Quoi. Ouais.
Donc forcément, elle ne pourra pas faire la même masse de travail.
Non, après, c'est peut-être aux bénévoles à s'engager un peu plus. Voilà. Mais comme on sait que les bénévoles, c'est en associatif, il y a énormément de retraités. Ils ne peuvent pas être dans toutes les associations parce que... C'est, ça demande du temps.
Ben, sur Radio Bartas, on va se battre, comme dirait Hubert Rive, pour essayer de trouver des nouvelles sources de financement. Donc voilà, pour continuer à faire exister cette radio.
Et puis éviter aussi, pour équilibrer le budget, de faire appel à de la publicité. Parce que
évidemment, c'est l'objectif premier. Ouais, on n'en est absolument pas là pour l'instant.
On a le droit à 20% de notre budget. Au niveau de la publicité, quand même.
Oui, après, voilà, il y a des solutions, là. Il y a des idées de solutions qui vont être travaillées. Et on va essayer de mettre ça en place dans les mois qui viennent. Donc, voilà. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est la reconnaissance d'un travail de qualité, sans publicité. Donc, voilà, on voulait vous en faire part. Et merci, Christophe.
Avec plaisir.
Pour ces précisions.
Donc, nous allons enchaîner avec notre dernière rubrique. CBN, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc le conseil de lecture du mois, c'est un livre, pas tout jeune, de Romain Gary, « La vie devant soi ». C'est l'histoire de Momo, un jeune arabe de 11 ans, né de travers, hein, selon ses propres termes. Il vit chez Madame Rosa, une vieille femme juive, ancienne prostituée, qui tient une pension, justement pour les enfants nés de travers, comme il dit. Un film ensuite qui s'appelle « Mister Nobody », un film de 2010 de Jaco Van Dormael. Alors, c'est un film super. Un enfant sur le quai d'une gare, le train va partir. Alors, doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père? Une multitude de vies possibles découle de ce choix. Mais tant qu'il n'a pas choisi, tout reste possible. Toutes les vies méritent d'être vécues. Voilà ma petite sélection du mois. Et bien, écoutez, on va continuer avec Monsieur Jacques et son titre « Tête en l'air ».
Dans la boîte aux lettres.
Alors, merci d'avoir écouté 7 bonnes nouvelles sur Radio Barta, sur le 107 évidemment. Alors, vous pourrez réécouter l'émission. Alors, tous les jours, si vous en avez besoin, en podcastant sur le site radiobartas.net. Alors, elle sera rediffusée aussi le samedi 26 mai à 17h. Et pour une nouvelle dose de bonnes nouvelles, nous vous retrouvons le mardi 5 juin à 8h du matin. Voilà, le répondeur de 7 bonnes nouvelles, donc lui, il est toujours ouvert. Je vous rappelle encore le numéro 04 66 47 06 92. La boîte mail cbn@radiobartas.net. Alors, merci de nous avoir écoutés. Au revoir Virginie. Merci aussi à Christophe. Au revoir Christophe. Et puis, bon mois à vous tous.
À bientôt.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté ?
Il y a des allumettes au fond de ses yeux. Des pianos à queue dans la boîte aux lettres. Des pots de yaourt dans la vinaigrette. Et des oubliettes au fond de la cour.
It was CBN on Radio Bartas. Thanks for listening.